À tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, que Dieu vous bénisse. On en est là, on a chanté, et maintenant il y a notre frère Olivier qui va rendre un témoignage.
Oui, bonjour à tous, bonjour ceux qui nous écoutent aussi sur le net. J'aimerais rendre témoignage à mon Sauveur et mon Christ Jésus. Et donc, que je vous explique un peu le contexte. Donc, à mon travail, on porte des choses assez lourdes. Et donc, à force la fatigue et tout, j'ai eu un petit souci au dos et ça commençait depuis quelques jours à me faire mal. Et j'avais ça me pinçait légèrement dans le dos. Et puis là, hier soir, c'était vraiment à la fête, à l'apéritif, j'étais vraiment pas bien, quoi. J'ai dû m'asseoir. Enfin, bref, c'était assez difficile pour moi. Et puis, un moment dans la soirée, je suis allé discuter avec Michel. Il y avait du bruit, on s'entendait à peine discuter, quoi. Et là, en discutant, il m'a dit, je peux prier pour toi. J'ai dit oui, avec grand plaisir. Et donc, on a vérifié mes jambes. Voir si déjà tout allait bien à ce niveau-là. Effectivement, il y avait quelques centimètres, j'avais une jambe plus courte que l'autre, quoi. Et donc, il a prié pour moi et le miracle s'est fait. J'ai plus mal au dos, ma jambe est revenue. C'est extraordinaire. Voilà, je voulais louer le nom de Dieu ce matin et remercier mon Dieu Jésus qui m'a guéri et par l'intermédiaire de Michel. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Et je voulais vous dire que nous soyons en Afrique ou ici, les miracles sont là.
Amen. Merci Olivier, merci, Dieu te bénisse. Oui, c'est vrai, tu as raison. Hier, j'étais dans mon bureau et tout à coup mon téléphone sonne et je vois que c'était un 226. Je dis, ah, c'est l'Afrique. C'était Nicolas qui m'appelait pour me dire, avec ta permission, je voudrais fêter Noël avec vous. Je dis, mais bien sûr, avec joie. Donc il sera avec nous pour Noël. Gloire à Dieu, c'est bien, on est content. Et puis il me dit, puis j'ai des choses à te dire. Vous savez qu'on a fait une réunion d'évangélisation à Sapuy, c'est là où il y a tous ces ouvriers, c'est là où c'est un village où il y a tous les champs et tous les voilà, là où il y a la pompe qu'on est en train d'acheter là-bas. Et puis il me dit, après la prière pour les malades, on avait vu, Francis, un homme qui avait quelque chose à l'épaule et qui a dit qu'il était guéri. Et puis c'est tout. On était un peu étonnés qu'il n'y ait que ça. Mais Nicolas me dit, non, il y a eu d'autres choses. Et c'est souvent comme ça que ça arrive. Les gens disent rien sur le moment, puis après ils témoignent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il me dit, tu te rappelles pas? Il me dit, quand tu as eu fini, tu m'as laissé parler, j'ai parlé dans le micro, et puis après, toi, il me dit, tu es parti sur la gauche, sur ma gauche. Bon, je ne m'en rappelle pas du tout. Il me dit, tu es parti sur ma gauche, et puis tu as été droit vers un homme, tu lui as imposé les mains au nom de Jésus, puis tu étais t'asseoir. Je ne m'en rappelle pas. Mais il dit, cet homme-là, il souffrait de quelque chose un peu comme des névralgies. Il avait ça dans tout le corps et c'était surtout la nuit que ça l'attaquait. Il avait beaucoup de peine à dormir et il dit, cette nuit-là, il a très bien dormi et depuis, il dort très bien et il n'a plus mal du tout. Gloire à Dieu. Amen. Et puis il m'a dit, il y en a encore un autre, mais je raconterai quand je viendrai. Alors, voilà. Alors, gloire à Dieu, on est content. C'est vrai, Jésus est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, on a un Dieu fidèle. Alors, à nous de l'être aussi maintenant. Hein, il faut faire attention. Celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Donc, comme on a beaucoup reçu, il faut qu'on fasse gaffe. Hein. Gloire à Dieu. Amen. Bien, je vais commencer dans les Écritures ce matin. Est-ce que vous permettez que j'enlève la veste? D'un coup, j'ai encore un coup de chaleur, sinon... Je croyais que c'était terminé, mais ça revient. Voilà. Ça, c'est les problèmes. Suite à l'Afrique, on a des hauts et des bas avec le système thermique interne. Si c'est ça les chaleurs que les dames ont, les vapeurs, c'est pas agréable. Hein. Que Dieu les bénisse. On va lire 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 32. Et aussi une petite note. Je lis dans la parole de Dieu dans la Bible, Esprit et vie. C'est la traduction avec les annotations des Assemblées de Dieu des États-Unis. Et c'est mis en français maintenant, depuis longtemps déjà. car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et je lis la petite annotation que nos frères pentecôtistes, Assemblée de Dieu, ont mis là, pour le verset 27. « Manger d'une manière indigne, c'est prendre part à la Sainte Cène avec un cœur indifférent, égoïste et irrévérencieux, sans aucune intention ou désir de se séparer de tout péché connu et d'accepter l'alliance de la grâce avec toutes ses promesses et ses obligations. Ceux qui participent de cette manière indigne pêchent contre le Seigneur. Coupables de crucifier à nouveau Christ, ils tombent immédiatement sous le jugement et le châtiment divin. » Être coupable envers le corps et le sang du Seigneur signifie être tenu responsable de sa mort. Voilà. Je voudrais vous parler d'un sujet vital ce matin. C'était long à préparer. Je peux pas dire que c'est une prédication préparée depuis cette semaine. C'est quelque chose qui est réfléchi dans la prière, de la méditation, et je pense que ça serait bien que, après avoir écouté, vous la réécoutiez encore, vous preniez des notes et vous y réfléchissiez, parce que il y a une profondeur là-dedans qui n'est pas commune. Ça, je crois que Dieu veut nous dire quelque chose par cela. Je vais vous parler sur le pardon selon les Écritures, selon Dieu. Vous savez, quand on se trouve en face de l'enseignement de Jésus-Christ, en fait, on se trouve face à lui. Jésus nous dit qu'il est la porte, donc on se trouve face à une porte. Et nous recevons le pardon qui vient de son cœur quand nous franchissons cette porte, quand nous acceptons de renoncer à notre vie passée, que nous franchissons cette porte pour aller marcher sur ce chemin. Et à partir de là, il nous enseigne à pardonner comme il nous a pardonné. Parce que d'abord, la première chose, c'est qu'il nous pardonne. Puis ensuite, il nous dit, voilà, maintenant, vous devez pardonner comme je vous ai pardonné. Alors, nous entrons donc dans ce qui est le pardon que Dieu nous accorde par la porte, je vais dire, du désespoir. Parce que nous sommes désespérés en face de Jésus si pur, si grand, si noble, si divin, et puis nous, notre condition de pécheur, né dans le péché, avec tout ce qu'on a emmagasiné, tout ce qu'on a commis, quand on se convertit, quand on franchit cette porte, quand on décide de marcher avec Dieu, c'est d'abord un grand désespoir. Dieu nous accorde la repentance. La Bible dit que nul ne peut venir au Père s'il ne l'attire. Et il nous attire en nous donnant la repentance. On verra ça tout à l'heure, je vous donnerai la citation. C'est lui qui donne la repentance. On peut pas. Beaucoup de gens ont des regrets, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas les regrets. On peut regretter d'avoir péché, mais ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui est donné par Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on rentre par cette porte de désespoir? Parce que s'il y a pardon, ce ne peut être que sur un fond d'impardonnable, c'est-à-dire que nous avons conscience que c'est impardonnable. Si on n'a pas conscience que c'est impardonnable, nous ne pouvons pas recevoir le pardon. Ce n'est pas naturel de pardonner, c'est divin. C'est pourquoi les Juifs disaient, mais cet homme blasphème, il n'y a que Dieu qui puisse pardonner. Vous n'avez pas complètement tort. Il n'y a que Dieu et les enfants de Dieu qui peuvent pardonner. Un pardon facile, a toutes les chances de ne pas être authentique, selon Dieu. Je dis qu'il faut la morsure du souvenir du mal qu'on a subi pour s'apercevoir qu'on a pardonné totalement. Je dis qu'il faut la morsure du souvenir du mal qu'on a subi pour être absolument certain qu'on a vraiment pardonné, ou pas. Le pardon, il ne peut pas s'enraciner, il ne peut pas fleurir s'il n'y a pas de racine dans notre conscience, si on n'est pas conscient, premièrement, de notre propre péché et des péchés qu'on a subis, des choses mauvaises qu'on a subies. Pour que ça puisse devenir quelque chose beau comme une fleur, il faut qu'il y ait des racines en nous-mêmes, dans notre conscient. On ne peut pas pardonner réellement si on ne creuse pas profond dans le terreau de notre refus de laisser le mal aller. Il nous faut absolument être dans cette position. J'accepte que ce mal disparaisse, non pas de mon souvenir, mais de la réalité de ma vie. Mais pour en arriver là, il faut creuser profond en soi-même. On ne peut pas le faire légèrement. Je pardonne. Non. Je voudrais vous expliquer. Il y a des étapes. Il y a des étapes. La première chose, c'est de nous pardonner. Après avoir été pardonné, c'est de nous pardonner nous-mêmes. Et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à franchir ce pas déjà. Se pardonner eux-mêmes. Avec la révélation qui est donnée en ce moment pour le rétablissement de toutes choses, on apprend que rien n'arrive sans que Dieu ne le sache. Et en fait, même si on regarde bien les Écritures, on s'aperçoit, pensez à Job par exemple, que ce qui arrive à Job, eh bien, ne provient pas des hommes. Ça se passe dans un niveau spirituel bien supérieur. J'ai lu une petite histoire, c'était le démarrage de cette réflexion. C'est une histoire juive. C'est un juif qui refuse d'aller à la synagogue le soir du Yom Kippour. Il reste chez lui et il se met à sa table et il commence une étrange comptabilité. Dans un livre, il écrit à gauche ses fautes, toutes les fautes qu'il a commises pendant l'année. Il réfléchit vraiment bien, il écrit tout ça. Puis à droite, il écrit toutes ses déconvenues, c'est-à-dire tous les impondérables, tout ce qu'on appelle les coups du sort, toutes les choses qui nous arrivent, on n'y est pour rien, mais ça nous a blessés, ça nous a offensés, c'est les choses que les gens nous ont fait, ou la nature nous a faites, ou des choses comme ça. Bref, ce qu'il appelle, lui, les fautes de Dieu, de l'année. Et puis il se lève, et à haute voix, il énumère tout ça. La colonne de droite et la colonne de gauche. Et il estime que Dieu et lui, ils sont quittes. Et il dit, je te pardonne, tu me pardonnes, on est quittes. On n'en parle plus. Parce qu'il a conscience que les choses qui nous arrivent, les souffrances, les offenses, tout ça, tout ce qui nous arrive, en fait, c'est permis par Dieu, c'est même organisé par Dieu pour une raison qui est notre bien finalement. Notre construction, notre édification. Qu'est-ce qu'on comprend dans cette histoire? C'est que renoncer au sentiment de culpabilité, c'est surtout pardonner au réel d'être ce qu'il est. On doit pardonner au réel, aux choses qui arrivent réellement, d'être ce qu'elles sont. Il faut pardonner ça. Si vous relisez le Notre Père que j'ai écrit dans le mystère de l'enveloppe révélée, ça se trouve à la page 281, vous vous rappelez, je fais la prière en disant c'est Dieu qui prie son enfant, qui dit mon enfant qui est sur la terre, vous vous rappelez, vous la relirez, vous verrez. Mes frères et sœurs, pour prendre conscience du mal subi et pour pouvoir le laisser aller, il nous faut creuser sous le mal profond, sous le mal que nous avons commis nous-mêmes déjà premièrement et qui au départ prend toute la place. Pourquoi je dis qu'il prend toute la place? Parce que notre propre état de péché met un obstacle entre Dieu et nous qui fait que non seulement nous ne pouvons pas être pardonnés, le péché est impardonnable, et nous ne pouvons pas pardonner les autres, puisque nous ne sommes pas pardonnés nous-mêmes. Et comme le pardon n'est pas naturel, mais qu'il n'est que d'origine divine, le vrai pardon, nous ne pouvons ni pardonner, ni être pardonnés, ni nous pardonner nous-mêmes. Et voilà pourquoi il est écrit que la repentance, elle est donnée par Dieu. C'est Dieu qui nous donne la repentance. On trouve ça dans 2 Timothée 2, 25. Donc, on ne pardonne pas le mal subi tant qu'on reste lié au mal qu'on a commis. C'est pourquoi le sentiment de culpabilité est le plus grand appel de Dieu à nous-mêmes et de nous-mêmes à nous-mêmes. Voir la réalité et pardonner la réalité. Certains ont à pardonner le fait qu'ils sont nés infirmes. Qu'est-ce qu'ils y peuvent ? Hein, rappelez-vous, quand les apôtres sont venus vers Jésus disant « Mais est-ce que c'est lui qui a commis un péché ou est-ce que c'est ses parents ? Pourquoi ?» Ils associent ça au péché. Le péché, il n'y a pas péché, il y a simplement souffrance, offense. Quelqu'un qui est né comme ça, c'est offensant. Non ? Ah, il ne faut pas être handicapé pour dire oui. Le sentiment de culpabilité nous met sur la voie d'une nouvelle construction de notre être, de notre âme. C'est ce sentiment de culpabilité, c'est une bonne chose. L'apôtre Paul dit, c'est vrai que ça semble sur le moment difficile et que c'est pénible, mais c'est la voie normale pour en arriver à une construction différente de notre être. Nous devons croire au pardon de Dieu, puis nous devons nous pardonner nous-mêmes de s'être laissé imposer le mal qu'on a fait et aussi de s'être laissé imposer le mal qu'on a subi. Ça, me laisser imposer. Oui, parce que quand vous subissez le mal, c'est pas tellement le mal que vous subissez, c'est la réaction que vous avez une fois que vous avez subi le mal. Ça suffit pas de ne pas se sentir coupable du mal qu'on a subi. Nous avons, quand nous pardonnons le mal subi, à adopter la réelle image de qui nous sommes. Quand on a été offensé, il faut adopter la réelle image de ce que nous sommes, c'est-à-dire une image qui était abîmée. Nous devons adopter cette image. Voilà, on était abîmé, on était froissé, on était déchiré. Voilà, ben c'est ma nouvelle image, je suis comme ça. Par le mal que j'ai subi, je suis brisé, je suis abîmé. Il faut que j'adopte cette image de moi. Il faut que je l'accepte. Il faut que pour pouvoir restaurer cette image, pour pouvoir réparer cette image, pour pouvoir lui rendre sa pureté, pas pour le plaisir d'être abîmé, non, pas pour le plaisir de contempler une horreur, non, mais pour pouvoir, si on ne l'accepte pas, comment voulez-vous la réparer ? On ne peut pas pardonner facilement si on fait ça. Ça devient quelque chose de difficile. Si on pardonne facilement, on ne fait que de refouler au fond de nous-mêmes quelque chose. Une blessure, un outrage. Et cette blessure, attention, c'est ce que Jésus appelle la part de Satan en nous. Il ne parle pas comme ça, mais il dit lui-même à Satan, « Tu n'as aucune part en moi. » Et si lui, il n'a aucune, si en lui il n'y a aucune part de Satan, en nous il doit y avoir cet état-là, aucune part de Satan en nous. Mais c'est quoi cette part de Satan ? La part de Satan que le diable veut en nous, c'est la part de l'être excellence, mais sans pardon. L'illusion, le refoulement. Donc, en passant par Jésus, en passant par la porte, en même temps, on fait un même mouvement, on se pardonne à soi-même et on pardonne aux autres. Ayant été pardonné nous-mêmes, on se pardonne à soi-même et on pardonne aux autres. Et puis, après, il y a la marche chrétienne qui est la continuation de cela jour après jour, parce que les offenses, elles vont continuer. Et c'est extraordinaire, parce que quand on marche comme ça, quand on va de l'avant comme ça, tout le bénéfice est pour nous-mêmes. Je suis le premier à gagner, à y gagner. En pardonnant. Mais en pardonnant, rappelez-vous, en intégrant cette chose, en acceptant l'image que je suis devenu, blessé, etc. Et en travaillant à la réparation de ça. C'est pas comme ça. La décision se fait comme ça. Mais après, il y a tout un travail. Alors observez ça. Une personne qui a soif de vengeance, par exemple, eh bien, c'est qu'elle cache une haine d'elle-même. Une personne qui est toujours dans l'auto-accusation, elle cache le désir de représailles contre les autres. Quand on se pardonne à soi, on est libéré du besoin d'évaluer la culpabilité des autres. Alors pourquoi l'apôtre Paul dit dans le texte qu'on a lu que chacun se juge soi-même ? Il y a beaucoup de boulot. Et quand on le fait réellement, et qu'on se pardonne soi-même, ben on est libéré de ce désir d'évaluer toujours le péché des autres. Le mot « pardon », moi j'aime la langue française, il est formé, d'abord il y a un préfixe, le préfixe « par », qu'on retrouve dans « parfait », par exemple, qui est « fait ». Le mot « par », ça signifie « totalement ».« Parfait », ça veut dire « fait totalement ».« Fait complètement », »,« fait jusqu'au bout ». Et il y a le mot « don » qui signifie « gratuite ». Donc c'est un don gratuit total. Ça veut dire quoi? Le pardon ne relève pas d'une culpabilité plus ou moins rationnelle. C'est une grâce, le pardon. C'est un don parfait. C'est le fruit d'une mentalité, de la mentalité du tout ou rien. Il ne peut pas y avoir de nuance là-dedans. La nuance, elle se trouve dans le temps. C'est-à-dire, il y a le moment où on décide de pardonner, et puis tout le travail de réparation de notre propre image et de l'image de l'autre. C'est le fruit d'une mentalité divine, c'est pas naturel. On ne peut pas pardonner sans l'aide de Dieu. Il faut réaliser une chose, le pardon, c'est fort comme le mal, aussi fort que le mal. Alors, qui a droit au pardon? Est-ce que c'est seulement ceux qui réparent le mal qu'ils ont commis? Est-ce que c'est seulement ceux qui prient et qui s'engagent dans une voie de changement radical, ce qu'on appelle la repentance? C'était un problème pour moi au début. J'ai dit, attends, il ne m'a pas demandé pardon, je ne pardonne pas. La réponse, elle vient de Jésus. Le pardon est inconditionnel. Ou alors il n'est pas. S'il y a des conditions, c'est qu'il n'y a pas de pardon. Si vous attendez le repentir de ceux qui vous ont offensé, vous vivez dans une illusion religieuse. Parce que le mal subi ne disparaîtra pas si votre offenseur se sent coupable. Le mal subi, le mal, il est subi. Et même s'il vous demande pardon, et même s'il répare le mal qu'il vous a fait. Le pardon authentique, il consiste à renoncer à chercher à combler le vide creusé par le mal subi. Il y a quelque chose qui vous arrive, un mal que vous subissez qui vous semble démesuré, eh bien seul un pardon démesuré peut faire l'affaire. Je crois que pour pouvoir vraiment pardonner, il faut se rendre compte qu'il est absurde d'exiger des excuses. Je crois que pour pouvoir vraiment pardonner, il faut se rendre compte qu'il est absurde de trouver des excuses à celui qui vous a offensé. Je crois que pour vraiment pardonner, il faut se rendre compte qu'il est absurde d'attendre ou de s'attendre même à une réconciliation. Et c'est précisément là qu'intervient quoi ? La mémoire. La mémoire. Pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est transfigurer le souvenir du mal subi. Comme Jésus a transfiguré, le mal était rouge comme le cramoisi, il l'a transfiguré, il l'a rendu blanc comme la neige. Mais il est toujours là. Mais il l'a rendu blanc. Alors, écoutez bien ça. La mémoire du mal, c'est pas la rancune. Ça, c'est la perversion de la bonne chose. Votre mémoire du mal, elle peut être sans rancune. Il faut qu'elle soit dans la mesure de la fidélité à la réalité. La réalité, c'est ça, je vais pas, elle ne peut pas changer, c'est vraiment arrivé, c'est comme ça, mais j'ai pas de rancune. Je travaille avec. Pour faire plus simple, je vais dire que il s'agit d'accepter que ce qui a été fait. Voilà. Point. Il s'agit d'accepter sans minimiser, sans majorer aussi, sans rajouter. Je ne parle pas là du mal subi, je parle là du souvenir qu'on a du mal subi. Il ne faut pas majorer ça ou il ne faut pas minimiser le souvenir du mal subi. Non, il est là, il est réel, c'est une chose réelle. Je parle à des chrétiens là, qui ont pardonné, mais qui ont encore la mémoire du mal subi. Une fois qu'on a pardonné, qu'on a donné parfaitement, qu'on a donné totalement, qu'on a gratuitement accordé donc ce pardon, eh bien on a encore le souvenir du mal subi. Qu'est-ce qu'on fait avec? Il nous faut l'intégrer si nous voulons en être libérés. C'est contraire à la logique et à la sagesse humaine. Il nous faut l'intégrer si nous voulons en être libérés. Intégrer ce souvenir, ce n'est pas oublier. C'est accepter d'être le dépositaire de cette expérience du mal. Mais en renonçant à en majorer le souvenir, c'est-à-dire à l'augmenter, ou à le minimiser, en étant juste avec ce souvenir. La mémoire non rancunière du mal, c'est possible. C'est ce que Jésus attend de nous. Nous pouvons intégrer le souvenir du mal subi en le ramenant à notre échelle, à l'échelle de notre propre péché qu'on a fait subir aux autres et qu'on espère tellement être pardonné. Si on fait ça, alors on relativise. C'est-à-dire, on commence à apprivoiser, on commence à assimiler ce qui nous est arrivé. Il y a une chose que même Dieu ne peut pas faire. Faire que les choses qui ont été faites n'aient jamais été faites. Et c'est là que s'enracine le pouvoir de pardonner. Parce que moi seul, je peux accepter le mal que j'ai subi. Moi seul, je peux pardonner, moi seul, tout seul. Le pardon, c'est une réponse individuelle à un mal subi individuellement. Par exemple, personne ne peut pardonner les bourreaux de la Shoah à la place des victimes de la Shoah. Il n'y a rien de plus personnel que l'offense subie et il n'y a rien de plus personnel que notre mémoire. C'est notre mémoire, c'est ma mémoire, votre mémoire est la vôtre. C'est pourquoi le souvenir du mal qui est subi par un va être différent, n'est jamais identique que le souvenir du mal qui est subi par d'autres. Pourquoi on ne peut pas juger? Parce que c'est individuel. C'est donc à chacun de nous, comme dit l'apôtre, de transfigurer à notre manière, à notre rythme, à notre manière, le souvenir du mal qu'on a subi. La mémoire du mal subi, elle a une fonction vitale. C'est Dieu qui permet ça. Pour qu'on puisse vivre dans ce système créé, parce que si on refoule certaines choses, si on, puis on dit je ne veux plus y penser, on refoule ça dans notre inconscient, et ça va remonter un jour avec une grande violence, et c'est pourquoi beaucoup sont malades. même psychologiquement. Mais la parole de Dieu, c'est pas seulement un livre divin, c'est aussi un livre de psychologie formidable. Heureusement qu'on a la mémoire des choses subies. Par exemple, cette année, on s'est souvenu de la guerre de 14-18. Est-ce que c'est sordide? Est-ce que c'est mal de s'en souvenir? Est-ce que c'est mal de se rappeler toutes ces choses-là? Non. Moi, je dis que ce souvenir, c'est une thérapie. C'est même mieux qu'une thérapie. C'est plus élevé. C'est quelque chose qui sert, en fait, de toile de fond au pardon. Le souvenir, c'est cette toile de fond où s'inscrit notre pardon. C'est là que s'inscrit notre pardon, c'est dans le souvenir. Parce que le pardon, il se nourrit de nos propres larmes, de nos propres souffrances, des larmes de ceux qui sont offensés. Le mal, il est ainsi incarné, il vient en nous parce qu'il est quelque chose qui est subi, il vient en nous. Et le pardon doit aussi être incarné, c'est-à-dire doit être mis en nous. Et il se fait ainsi par la mémoire. C'est pourquoi Jésus est venu et il est devenu l'incarnation du mal. Sur la croix, il a porté nos péchés, il est devenu le péché pour nous, à notre place. Il a dit ça, c'est la nouvelle alliance, faites ceci en mémoire. Il a intégré tout ce mal commis contre son Père, parce qu'en fait, quand on pêche, c'est contre Dieu qu'on pêche. Même si on pêche contre quelqu'un, c'est contre Dieu qu'on pêche, de toute façon. Eh bien, il a intégré tout ce mal en lui, et une fois ressuscité, avec son corps transfiguré, différent, qui pouvait passer à travers les murs, mais il y avait quand même les cicatrices. Il y avait quand même les cicatrices. Non pas des cicatrices en forme de mémoire rancunière, pas du tout, mais en forme de mémoire qui donne sa pleine valeur au pardon qu'il nous a accordé. Son sang, ses cicatrices servent de témoignage en présence du Père. Le souvenir du sacrifice, le souvenir de ce pardon qui était accordé. Important, le souvenir. Ne dites pas, « Ah, oh, mais moi, c'est terrible, je ne dois pas avoir pardonné parce que je n'ai pas oublié. » Non ! La mémoire que nous avons du mal qu'on a subi nous permet aussi de nous souvenir du pardon qu'on a accordé. Le souvenir ne nous sert pas simplement à dire, attention, celui-là il m'a joué un sale tour, il faut que je fasse gaffe avec lui parce qu'il va m'en jouer encore, c'est sa nature. Non, c'est pas seulement ça. Ça peut être ça, ce qui va nous rendre un peu prudents pendant quelques temps, jusqu'à ce que la personne qui nous a offensés fasse des preuves que bon, elle a fait une bêtise, mais c'est pas mortel. Ce souvenir-là, il nous permet de ne pas perdre notre identité si nous décidons de laisser aller le mal subi. Il faut le décider. Mais on ne peut rien faire d'autre que le décider. Faire quoi? On ne peut pas défaire ce qui est fait. Donc, mémoire et pardon ne sont pas incompatibles, mes frères et sœurs. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour beaucoup. Ça n'est pas incompatible. Ça contribue. La mémoire et le pardon contribuent à faire de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire la mémoire, elle est liée à notre pardon. Et alors notre pardon dépend de notre mémoire du mal subi et du pardon accordé. Tout ça, ça forme un tout. Je ne parle pas de mémoire rancunière. Une mémoire du mal sans pardon, ça nous fait entrer en enfer. Déjà ici-bas, ça ronge. Mais un pardon sans mémoire n'est pas un pardon libérateur. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Un pardon sans mémoire, c'est pas un pardon libérateur. C'est une pirouette, cacahuète. C'est une pirouette, c'est une façade qui cache quelque chose de monstrueux, qui va sortir un jour ou l'autre sous forme de violence, sous forme de maladie, même de mort. Ce qu'aujourd'hui on appelle les maladies psychosomatiques et toutes ces choses-là, c'est des vieilles choses qui traînent là-dedans. Parce que la mémoire du pardon que nous avons accordé réellement à la façon de Jésus-Christ, en gardant les cicatrices pour nous souvenir que nous avons pardonné, eh bien, ce pardon-là, il produit une alchimie, un mot bizarre, on peut le comprendre, c'est-à-dire que ça introduit dans ce que nous sommes, le mal devient ce qui nous rend plus nobles, plus divins. Nous sommes nés humains, nous sommes nés de nouveau, et nous devenons de plus en plus conformes à l'image de Christ, qui est mort pour nos péchés, qui nous a pardonnés, mais qui n'a pas oublié, et qui présentera encore aux Juifs, quand il reviendra, ses cicatrices, et ils le reconnaîtront. Mais ce n'est pas une mémoire rancunière. Alors, le souvenir du mal intégré et transfiguré, il prend la place de la souffrance que le mal nous a fait. Le souvenir doit prendre la place de la souffrance. Le souvenir ne doit pas raviver la souffrance. S'il ravive la souffrance, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez fait qui n'est pas juste. Et il suffit de vous en repentir. On en est tous au même point. Ce que je viens de vous dire, c'est une grande vérité qu'il faut méditer. Il faut bien intégrer. Et puis il faut vivre ensuite ces choses. Vous savez, l'être humain est très complexe et nous sommes tous différents les uns des autres, mais la vérité, elle est unique, elle est pour tout le monde la même. C'est pour tout le monde la même chose. C'est pourquoi l'apôtre dit que chacun se juge soi-même. Soi-même. Parce qu'on n'a pas ce qu'il faudrait pour pouvoir juger les autres. Il n'y a que Dieu qui a. Nous, on n'a pas. Même Jésus, quand il était sur la terre, il avait cela de différent de nous, c'est qu'il n'avait jamais péché. Alors que nous, depuis tout petit. Alors, le châtiment tombe sur celui qui juge, et chacun est puni pour ses propres fautes, parce que nous sommes arrivés aujourd'hui dans la dispensation dont Jérémie a parlé dans sa prophétie, Jérémie 31, 29, 30, je voudrais vous le lire pour terminer. Nous sommes arrivés à cette époque, parce qu'alors ce n'était pas la même chose avant, et c'est comme ça maintenant. En ces jours-là, on ne dira plus, parce qu'à l'époque on disait, mais maintenant on ne dit plus, maintenant dans notre dispensation, on ne dit plus, les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Mais on arrivera au jour, et nous y sommes arrivés parce que Christ est mort pour nous, à notre place. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. C'est chacun pour soi. Il n'y a que Jésus qui a porté mes péchés et les vôtres. Je ne peux pas porter les vôtres, je peux porter que les miens. Les vôtres, les offenses, les choses, je dois les intégrer, les transfigurer. Et vous avez à faire de même. Mais on ne peut pas faire plus. C'est Jésus qui fait la totalité de la chose. Et un jour, il remettra tout ça au Père et ça sera terminé. Pour le moment, simplement souvenez-vous de cela. On ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. C'est-à-dire que ce que les pères ont fait, les bêtises qu'ils ont fait, eh bien la punition tombe sur les enfants ou sur les autres. Non, c'est fini ça, c'est terminé, ça n'existe pas. Maintenant c'est chacun meurt pour sa propre iniquité et tout homme qui mangera des raisins verts aura ses dents agacées lui-même personnellement. Donc mes frères et sœurs, on va prendre le pain et le vin ce matin. Que chacun se juge, mais pas dans le sens de se condamner, mais dans le sens de dire, mon Dieu, c'est vrai, je suis pécheur. Cette semaine encore, j'ai fait des choses qui ne sont pas claires. Mais mon Dieu, je crois dans ton pardon, et je crois dans le pardon que j'ai accordé aux autres. J'en garde encore les cicatrices en mémoire de ce que j'ai pardonné. Et je prends maintenant le pain et le vin. Je sais que je suis en ordre avec toi. Ça, c'est la foi. Voilà pourquoi le pardon n'est que divin, ne peut pas être humain. Si c'est humain, c'est limité. Le pardon doit être illimité, c'est tout ou rien. Et si vous avez pardonné, alors vous pouvez prendre le pain et le vin. Et ne jugez pas si les autres ont pardonné ou pas, ça ne vous regarde pas. Moi je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait des gens qui disaient, oh, moi je ne peux pas prendre la Sainte-Seine dans cette église parce qu'il y a un tel qui a fait ci, il y a un tel qui a fait... Ça ne nous regarde pas. On prend la Sainte Cène pour être en communion soi-même avec Dieu, être en communion avec les autres, sachant que les autres aussi ont été pardonnés, comme nous avons été pardonnés. Ça ramène tout. Nous devons ramener à notre échelle personnelle. Ils ont offensé, mais nous aussi, ça nous est arrivé d'offenser. Donc voilà, regardons-nous tous personnellement comme pardonnés et regardons les autres comme pardonnés. Sans condition. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette réflexion que tu m'as donnée, que j'ai pu partager. J'espère que j'ai fait bien. Et je te prie que mes frères et sœurs le réécoutent et le méditent afin de bien le saisir. Je te remercie, mon Dieu. C'est vrai, je suis responsable de ce que je dis, mais chacun est responsable de ce qu'il comprend et de ce qu'il croit avoir entendu. Je te demande vraiment que ton esprit vienne au secours de chacun et de chacune pour que nous soyons vraiment certains de ces choses. Merci, mon Dieu. Maintenant, je bénis ce pain qui représente ton corps qui a été maltraité pour nous, à notre place, alors que nous méritions ce châtiment. Merci, mon Dieu, parce que tu as été brisé à cause de mes péchés, à cause des péchés de mes frères et sœurs. Tu étais brisé, ton corps a été maltraité, crucifié, à cause de tout ce mal commis sur cette terre, depuis le péché d'Adam et Ève. Merci, mon Dieu, pour ta bonté infinie. Merci pour ce pardon que tu nous as accordé déjà à l'avance, alors que nous n'étions pas encore nés. Merci de nous avoir donné la repentance pour pouvoir aujourd'hui marcher en nouveauté de vie et prendre ce pain en mémoire de toi. Je te remercie aussi pour cette coupe qui représente l'alliance, la nouvelle alliance en ton sang, c'est-à-dire en ta vie. Merci, mon Dieu, de nous avoir donné ta vie en Jésus-Christ sur cette croix infâme. Merci, Seigneur, de ce qu'il a accepté de faire ta volonté, ô Père, afin que nous puissions passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Marcher, c'est-à-dire progresser. Marcher, c'est-à-dire aller de mieux en mieux, de plus en plus près du but de la perfection. Seigneur, nous ne prétendons pas avoir atteint la perfection, et nous t'en demandons pardon, mais nous savons que tu connais toute chose. Nous savons une chose, c'est que nous sommes en marche. Je sais que je suis en marche. Je sais que mes frères et sœurs sont en marche. Je sais que chacun désire le bien. Je sais que chacun désire le mieux. Je sais que chacun désire la paix. C'est pourquoi nous pouvons prendre ce pain. C'est pourquoi nous pouvons prendre cette coupe. Ensemble, unis, sous ton esprit, sous ton regard. Merci Seigneur de nous accueillir sous ton aile. Nous ne voulons pas être comme ceux qui ont refusé d'être rassemblés sous ton aile. Nous voulons être de ceux qui accepte d'être rassemblé sous ton aile protectrice, parce que bien qu'ayant été pardonné, bien qu'ayant reçu cette vie en nous, bien qu'étant né de nouveau, nous avons terriblement besoin de ta protection. Aide-nous, Seigneur Jésus, encore et encore, jusqu'à ton retour. Nous nous attendons à toi. Merci, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je demanderai celui ou celle qui veut aller donner le pain, allez-y, levez-vous. Celui ou celle qui veut aller donner le vin, levez-vous et allez-y, que Dieu vous bénisse. Amen. Stéphane, tu viens ?